c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Eh bien, ma foi, je suis heureuse de vous retrouver en ces premiers jours de janvier, juste pour vous souhaiter une très bonne année et tout plein de bonnes choses, des petits plaisirs, des petits bonheurs et surtout des grandes joies. Et puis, lorsqu'on commence une année, on a sans doute quelques espoirs ou quelques espérances. Alors, je vous souhaite que certains ou certaines se réalisent. Tous mes vœux vous accompagnent et surtout portez-vous bien et puis armez-vous d'amour et restez vous-même.
C'est pas le temps qui file doucement au goutte à goutte qui me fait perdre le fil de mes espoirs, de mes doutes, avoir les yeux si clairs du bleu de l'espérance, c'est changer toutes les guerres contre un peu de tolérance. C'est pas le temps qui passe doucement jour après jour qui fera perdre la face aux ennemis de l'amour, avoir les yeux si clairs du bleu qui touche au cœur, c'est accepter sur sa terre tous ceux qui viennent d'ailleurs. Chaque instant qui passe, c'est un peu et même si l'avenir dure longtemps, tu seras vieux si tu attends. Jette-toi dans l'espace, laisse pas un instant prendre ta place. Va univers, l'univers, tu vois, pas besoin d'être un héros. Sois-toi, sois-toi. Fais délirer les fous pour des idées qui divaguent, avoir les yeux si clairs du bleu de l'éternité, c'est refuser de se taire et mourir pour une idée. Chaque instant qui passe, c'est un peu de toi qui s'efface, et même si attends, jette-toi dans l'espace, laisse pas un instant prendre ta place. Va univers, l'univers, tu vois, pas besoin. toi. Sois toi. Sois toi.
Isabelle Aubray sur Radio Plus. Alors aujourd'hui dans l'air du temps et dans notre rubrique Saletant sur la planète, Jean-Louis Ouetté, président de l'Étrême Nature, nous dira pourquoi enfin l'Union européenne a décidé d'interdire à partir de 2021 les gobelets en plastique, les touillettes et tous les plastiques à usage unique, parce que oui, les océans en regorge, triste constat. Alors dans notre rubrique jardinage naturel avec Bertrand Trunel, pas de problème pour se passer des produits phytosanitaires interdits à la vente depuis ce 1er janvier. Et puis j'accueillerai Daniel De Waal qui nous parlera de son troisième ouvrage et deuxième roman, Au clair de la terre, les jours heureux, et je lui laisse bien sûr le soin de vous le présenter. Alors je vous parlais d'espoir tout à l'heure, Daniel De Waal espère en l'homme et il nous le confirmera bien sûr.
Puisqu'ici bas tout homme donne à quelqu'un sa musique, sa flamme ou son parfum. Puisqu'ici toute chose donne toujours son épine ou sa roue à ses amours. Je te
triste d'ailleurs, qui comme une rosée t'arrive en pleurs. Mon esprit qui s'envole, vogue au hasard et qui n'a pour étoile que ton regard. Je te donne à cette heure penché sur toi la chose la meilleure que j'ai en moi. Ma muse que les heures bercent rêvant, qui pleurant quand tu pleures, pleure souvent. Sois mon bien céleste, ô ma beauté, mon cœur dont rien ne reste. L'amour ôté, je te donne à cette heure penché sur toi la chose la meilleure que j'ai.
Hey. Enzo sur Radio Plus avec un poème de Victor Hugo et la chose la meilleure pour vous, je l'espère. Et justement, pour notre enquête aujourd'hui dans l'air du temps, eh bien, je vais vous donner des bonnes habitudes à adopter qui, paraît-il, vous mettent le moral au beau fixe. Par exemple, prendre un bain moussant avec des huiles essentielles toniques, faire un petit cadeau à quelqu'un et se faire du bien à soi, gribouiller, colorier pour chasser les idées noires, écrire une histoire, même courte, cela stimule l'imagination, danser dans son salon en solo et mettre la musique à fond. Bon là, évidemment, en condition de ne pas avoir de voisins, n'est-ce pas? Et puis aussi, ce qui fait beaucoup de bien, paraît-il, c'est écouter de la musique tous les jours pour s'évader. Eh bien voilà, pour la musique, Radio Plus est là, bien sûr.
Ton meilleur ami a un grand couteau, celle que tu aimes te le prend dans le dos. Tu t'étonnes et tu trouves ça curieux. Tous tes rêves étaient bleus, tous tes rêves étaient roses, mais la vie c'est autre chose. Écoute la musique, quelle consolation fantastique. Tu veux t'envoler dans les nuages, viendrais-tu partager mon paysage, juste pour un amour de passage. Pour faire des rêves bleus, pour faire des rêves roses, on n'a pas besoin d'autre chose. Son tapis magique, écoute la musique, quelle consolation fantastique.
Bien sûr, c'était Michel Berger sur Radio Plus. Alors, autre musique à présent avec notre rubrique Sale temps sur la planète.
Sale temps sur la planète. Oh, le drôle, de temps.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution, opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux, hein, santé, petit bonheur et grande joie au papa et grand-papa que vous êtes. Et alors à la personne soucieuse d'environnement et d'écologie, eh bien je souhaite plein de bonnes choses. Alors je ne peux pas tout citer tant la liste est longue, mais en tout cas, très très bonne année à vous.
Ben, moi aussi, je vous souhaite une excellente année 2019, pleine de joie et de bonheur pour vous et puis pour tous les auditeurs. Et puis, c'est vrai que la planète ne va pas bien, on le répète chaque semaine. Et donc, on compte sur vous pour vous mobiliser, que ce soit une année de mobilisation pour sauvegarder cette planète.
Tout à fait, c'est vrai. 2019, finalement, c'est quand même une année qui démarre pas mal, n'est-ce pas Jean-Louis, puisque vous qui êtes très sensible au comportement des oiseaux, vous pourriez peut-être dire une année qui démarre sous les meilleurs auspices, avec l'interdiction totale des produits phytosanitaires, et si quelqu'un a encore des doutes sur les méfaits du glyphosate sur la santé, eh bien qu'il lise cet ouvrage de Paul François qui a obtenu le prix littéraire des droits de l'homme, un paysan contre Monsanto, et c'est paru aux éditions Fayard. Et là, c'est assez édifiant comme livre. Alors Jean-Louis, puisqu'on est dans les interdictions, en espérant qu'en 2019, justement, les autorités vont se réveiller un petit peu et surtout agir, donc, je disais, puisqu'on est dans les interdictions, soulignons que l'Union européenne a interdit les pailles, les couverts, les touillettes et les gobelets en plastique et tout ce qui est à usage unique, mais aussi les cotons-tiges, car on les retrouve dans les océans. D'ailleurs, si on ne fait rien, on y trouvera plus de plastique que de poissons dans ces océans. Alors Jean-Louis, c'est une loi qui aurait dû être appliquée avant, mais encore une fois, il y a eu intervention du lobby du plastique, bien sûr.
Oui, c'est vrai que le lobby du plastique a réussi à retarder, à affaiblir l'ambition de l'Union européenne. Il faut savoir que c'est quand même le chiffre d'affaires de la plasturgie en France, c'est quand même 30,2 milliards d'euros, c'est 122 000 salariés, 3 500 entreprises. Donc, c'est évident que ils n'ont pas attendu les bras croisés que le lobby du plastique est monté au créneau. Faut savoir que les définitions européennes vont donner de nouvelles contraintes, hein, puisque il va falloir fabriquer des plastiques maintenant, des produits biosources à partir de composants naturels renouvelables. Donc ces contraintes, il faut qu'elles soient vite intégrées. Alors faut savoir que c'est une affaire qui a été rondement menée par l'Union européenne, hein, on la critique, mais sur ce point-là, ça a quand même été assez vite. Faut savoir quand même que par derrière, il y a quand même quelque chose qui est passé un peu inaperçu, c'est que la Chine a été à l'origine de cette interdiction, puisque la Chine a décrété la fin des importations des déchets plastiques en Chine à début 2018. Donc la donne a complètement été radicalement changée en Occident. Il faut savoir que depuis 1992, il y a près des trois quarts des déchets plastiques des pays industrialisés qui finissaient en Chine. L'Europe y exportait jusqu'à présent 50% de ses déchets plastiques triés. Mais il faut savoir qu'entre-temps, la Chine, c'est devenu un pays de consommation. Un pays suffisamment développé pour se retrouver avec son propre gisement de déchets plastiques à gérer, d'où justement cette urgence au niveau européen, et on peut s'en féliciter.
S'en féliciter, oui.
Puisque ça va plus loin qu'on pourrait l'imaginer, puisqu'il y a d'autres avancées significatives, notamment le renforcement de l'application du principe pollueur-payeur, en introduisant notamment la responsabilité élargie des producteurs. Alors c'est pour les cigarettiers, par exemple, les producteurs de matériel de pêche, qui vont devoir prendre en charge les coûts de la collecte, par exemple pour les cigarettiers des mégots, ou pour les producteurs de matériel de pêche, des filets abandonnés en mer. Donc ça, c'est quand même assez important. Et puis ça fixe en outre un objectif de collecte des bouteilles en plastique de 90% de volume d'ici à 2029. Donc il y a des choses qui vont quand même plus loin que justement les touillettes et les cotons-tiges.
Tout à fait, ça commence à bouger, on va dire.
Ça bouge.
Alors évidemment, Jean-Louis, la véritable prouesse serait de parvenir à supprimer totalement le plastique de l'industrie, car sa production engendre une pollution environnementale conséquente, et ce matériau n'est pas recyclable à l'infini, surtout.
Et non, il faut savoir qu'il y a 25 millions de tonnes de déchets en plastique qui sont produites chaque année dans l'Union européenne, dont un quart seulement est recyclé. Une partie est incinérée, Mais la grosse partie, c'est stocké en décharge ou directement rejeté dans la nature. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment urgence à agir.
Alors, Jean-Louis, nous en avions déjà parlé lors d'une précédente émission, hein, et ce, d'ailleurs, lors de l'interdiction des sacs plastiques. Mais je crois qu'il faut toujours enfoncer le clou. Il faut que chacun prenne conscience. Alors, dites-moi, justement, d'où viennent tous ces déchets plastiques? Parce que finalement, le problème n'existerait pas si on mettait chacun et chacune les plastiques là où ils doivent aller, c'est-à-dire à la poubelle, afin qu'il soit, justement, comme vous venez de dire, soit recyclé, soit...
Oui, soit incinéré. Malheureusement, je pense que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Or, il faut savoir que le plastique, c'est devenu un produit incontournable, malheureusement, puisque si on prend les produits les plus fabriqués dans le monde, le premier, c'est le ciment, le deuxième, c'est l'acier, mais le troisième, c'est le plastique, hein. Donc, la production industrielle du plastique a commencé dans les années 50. Alors, évidemment, ça a apporté un plus, hein, puisque ça a répondu à de multiples usages et c'est devenu incontournable. Bon, c'est vrai que c'était un produit hygiénique qui résistait aux chocs, aux variations de température, qui est facilement mis en forme. Et donc, il y a eu une forte production de plastique, hein. Il faut savoir qu'en 2016, il y a eu 335 millions de tonnes de plastique. Et il faut imaginer que c'est 10 tonnes par seconde. Et c'était en augmentation, puisqu'en 2004, on était à 225 millions de tonnes. En 2016, 335 millions de tonnes, 100 millions de tonnes supplémentaires. Donc, et dans l'Union européenne, plus la Suisse et la Norvège, la production de plastique, c'était 60 millions de tonnes en 2016. Et c'est un chiffre qui est constant depuis 2004. Et ben, qui dit plastique dit déchets. Et donc, savoir que les humains ont généré en 75 ans 8 milliards de tonnes de plastique. Hein. Donc, c'est équivalent, puisque quand on pense aux déchets plastiques, on pense aux océans, à la mer, c'est équivalent à 80 millions de baleines. On n'imagine pas. Hein. Donc, c'est vrai que... Et les déchets plastiques, ben, c'est passé en 2015, on est passé à 6 milliards de tonnes, et ça risque de doubler si on ne fait pas attention en 2050.
Oui, mais Jean-Louis, vous êtes bien d'accord quand même que s'il y avait une conscience un petit peu citoyenne, on n'en serait pas là. Je veux dire par là que on ne retrouverait pas forcément les bouteilles plastiques ou
dans les océans. Le point important, c'est justement la sensibilisation du public. Il faut agir et je vais reprendre une formule au risque de paraître pour un radoteur, mais choisir, c'est agir. Hein. Il faut produire le déchet le plus intéressant, c'est celui qu'on ne produit pas. Hein.
Mais
donc,
en fait,
il y a des choix à faire.
De toute façon, aussi, il y a aussi des poubelles. Hein. Les poubelles ne sont pas jetées directement dans les océans, n'est-ce pas? Donc, quand on se promène dans la nature, quand on fait un petit peu du nettoyage de nature, on voit des tas de bouteilles qui ne devraient pas y être, bien sûr.
Tout à fait. Hein, on voit encore beaucoup d'incivilité quand on se promène. C'est des bouteilles, c'est des sacs plastiques hein, qui sont jetés dans les fossés, sur les bords de route. Donc les incivilités, eh bien, malheureusement, elles ne sont pas en diminution. Et donc tous ces déchets, bah, toutes ces incivilités, ça produit des déchets plastiques qu'on va retrouver dans la nature.
Voilà. Alors je parlais des cotons-tiges hein, tout à l'heure, si vous le permettez Jean-Louis, bien lors d'une prochaine émission, on en parlera vraiment. Pendant une dizaine de minutes, ça ne sera pas trop, puisque il faut savoir que le top le coton-tige est le top dans le top 10 des déchets les plus fréquents sur les plages.
Donc, tout à fait. Donc, on pourra lui. Les auditeurs tendront une oreille attentive.
Alors, Jean-Louis, on rappelle quand même les conséquences des déchets plastiques sur la faune.
Ben oui, le plastique, ça représente plusieurs menaces mortelles pour les animaux. D'abord, l'obstruction du système digestif. Hein, à force de manger du plastique, ben, les animaux finissent par se remplir de plastique qu'ils ne sont plus capables d'évacuer de façon naturelle. Et puis, l'estomac leur donne des fausses sensations de satiété et ils peuvent mourir aussi d'occlusion intestinale. Et puis ensuite, ça rentre dans la chaîne alimentaire. Ensuite, empoisonnement. Hein. Empoisonnement, il faut savoir que le plastique, c'est pas un produit qui est neutre. Il y a des substances nocives dans la composition. Et donc, faut savoir que le plastique, ça se transforme en une vraie bombe chimique mortelle pour les animaux qui vont l'ingurgiter. Et puis, donc, avec des perturbateurs endocriniens. Puis aussi des problèmes de fertilité pour les animaux. On en a déjà parlé, notamment des études qui ont été faites sur les poissons. Et puis en fait, ça aussi, c'est un piège. Ah, on a tous vu des photos de tortues qui sont emmêlées dans des filets de pêche ou dont la carapace a été déformée, par exemple, par un anneau de canette. Donc certains déchets plastiques sont véritables pièges pour les animaux et donc qui peuvent se blesser, rester coincés, se noyer, mourir d'épuisement. Donc un danger permanent pour la faune. Mmh.
Alors, nous sommes bien sûr toutes et tous responsables de cette situation, hein, et donc chacun, comme on l'a dit Jean-Louis, chacun doit s'impliquer pour qu'elle n'empire pas cette situation. Il est grand temps de remettre fondamentalement en cause la manière dont nous abusons des matières plastiques. Nous pouvons agir dès maintenant, vous nous le répétez assez souvent. Et puis bien sûr, on peut aussi contribuer au nettoyage dans la nature, c'est-à-dire quand on se promène, si on voit des plastiques, et bien les ramasser.
Oui, bah, contribuer, alors les ramasser c'est une chose, mais contribuer au nettoyage c'est aussi de commencer par limiter ses propres déchets, hein, de respecter le tri sélectif, hein, et puis de sensibiliser les autres, de faire des choix. Hein. Faut savoir que près de la moitié de la demande de plastique brut concerne les emballages, donc faire des choix au niveau des emballages, refuser les produits qui sont hyper emballé en plastique. Donc ça aussi c'est important. Donc moi je suis pas un fan des opérations, bien sûr, ramasser des déchets qu'on rencontre. Je suis pas un fan des opérations de collectives de ramassage de déchets. Je suis plus orienté vers la sensibilisation et le faire respecter le tri, parce que ça me paraît quand même fondamental, et puis mettre les gens face de leurs responsabilités.
Voilà, un travail en amont, on va dire.
Voilà.
Alors, touchez pas à la mer, chantait Antoine, cette pauvre mer, comme la mer du Nord ou la mer Baltique, dans lesquelles les Alliés ont volontairement coulé des navires transportant près de 3 milliards de tonnes d'armes chimiques conventionnelles produites lors de la première et de la Seconde Guerre mondiale. Alors ça aussi, c'est un énorme problème. Il n'y a pas que les déchets plastiques. Là, je vous dis, c'est un énorme problème. Car si rien n'est fait, nous allons droit là à la catastrophe. Et ce sera le sujet donc de lundi prochain. Car vous organisez avec votre association, Jean-Louis, une conférence avec Film Débat le 31 janvier à l'Étrême. On en parle donc lundi prochain. Jean-Louis, merci. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous dis à lundi.
Bonne semaine à tous et à lundi.
À lundi.
Des frigos, des multirobots, des îles, des vidanges, des gaz à gogo, des liquides toxiques pour bien qu'élastique, et du silicone pour être esthétique. Ça fait des bonbons
Arnaud qui dénonce lui aussi les sacs en plastique. Le titre de sa chanson, c'est Mourir à plusieurs peut-être, mais pas encore tout de suite, n'est-ce pas? On a encore quelques temps devant nous. Alors tout de suite, on retrouve Bertrand Trinel pour le jardinage bio, car là aussi c'est important pour notre santé.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux être heureux toute la vie, dit le proverbe, fais-toi jardinier. Chaque semaine, Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, vous aide à cultiver le vôtre 100% nature. Freud affirmait que la seule chose importante dans la vie, c'est le jardinage. Mais la seule chose importante dans la vie, n'est-ce pas notre santé, c'est-à-dire notre environnement?
Bonjour Bertrand et très très bonne année à vous. Alors pour 2019, je vous souhaite tout plein de petits bonheurs et de grandes joies, comme je le disais aussi, mais beaucoup, mais des petits bonheurs et puis au potager aussi. Et puis tout plein de beaux légumes donc que vous semez, que vous regardez pousser, que vous aimez, que vous distribuez. Alors Bertrand, vous cultivez votre jardin comme on devrait cultiver notre bonheur avec patience et en se réjouissant tous les jours de nos réussites et en prenant nos échecs comme des jalons pour mieux progresser. Encore tous nos vœux, Bertrand, et merci à vous de nous accompagner encore tout au long de cette année 2019 pour aimer et chouchouter notre jardin qui nous apporte ô combien de bien-être.
Bonjour et merci Martine. Et pour vous présenter mes vœux ainsi qu'aux auditeurs, je vais vous conter une petite histoire. Donc, on avait demandé à un groupe d'étudiants de dresser la liste de ce qu'ils croyaient être les sept merveilles du monde, de notre époque bien sûr. Alors la réponse a été les grandes pyramides d'Égypte, le Taj Mahal, le Grand Canyon, le canal de Panama, l'Empire State Building, la basilique Saint-Pierre, la Grande Muraille de Chine. Et pendant qu'elle compilait les votes, l'enseignante nota qu'une étudiante n'avait toujours pas remis son papier. Donc elle demanda à la jeune fille si elle avait de la difficulté à dresser sa liste. Celle-ci répondit, bah oui, c'est quand même un peu difficile de décider tellement il y en a. Et puis la jeune fille continua, bah je crois que les sept merveilles du monde sont voir, entendre, toucher, goûter, sentir, rire, aimer. Alors, toutes les choses les plus précieuses ne peuvent pas être achetées ou construites par l'homme. Alors moi, pour cette nouvelle année, je vous souhaite, ainsi qu'aux auditeurs, de voir et d'admirer les beautés de la nature, d'entendre le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, la pluie qui tombe, de toucher le ton des arbres, la douceur d'une feuille, de goûter les délicieux fruits et légumes de vos jardins, de sentir le parfum des roses, du lilas, du jasmin, de rire avec vos amis, de vivre heureuse et heureux, et d'aimer la vie. Voilà, bonne année à toutes et à tous.
Très beau programme, merci Bertrand. Et puis Bertrand, pour vous, 2019 s'annonce très bien, puisque enfin, et nous en avons déjà parlé, enfin, c'est la disparition des produits phytosanitaires. Alors méfions-nous quand même de ceux qui pourraient se vendre à la place hein, et qui pourraient s'avérer être aussi dangereux et pour notre santé et pour la biodiversité et l'environnement. Alors bon, on en avait déjà parlé lors de la dernière émission. Il faut que 2019 devienne l'année de la vigilance. Alors nous insistons car on ne peut plus nier que manger bio réduit les risques de cancer, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Et ça y est, les produits de traitement phyto sont désormais interdits à la vente aux jardiniers amateurs depuis le 1er janvier 2019. Alors ces produits, c'est quand même été très dangereux pour notre santé, pour celle de nos descendants et pour l'environnement. Alors oui, effectivement, manger bio réduit les risques de cancer, et cette fois ce sera difficile de nier l'évidence, parce que il y a une grande étude épidémiologique française publiée le 22 octobre dans la revue JAFA International Medicine qui indique que les gros consommateurs d'aliments biologiques ont un risque de cancer réduit de 25% par rapport à ceux qui en consomment le moins. Et la réduction du risque va même jusqu'à 34% pour les cancers du sein post-ménopause et elle atteint 76% pour les lymphomes. Alors ces derniers résultats sont importants parce que les lymphomes font partie des cancers surreprésentés chez les agriculteurs conventionnels. Donc il est donc hautement probable que manger des produits bio vont protéger du cancer en étant vont protéger du cancer ceux qui sont moins exposés aux résidus de pesticides. Mmh. Et le fait qu'une étude britannique avait déjà mis en évidence les effets protecteurs de la nourriture biologique sur le lymphome, le lymphome non hodgkinien, plaide en faveur également de la recherche française. Donc voilà, manger bio, c'est très bien pour notre santé.
Alors justement, bon, qui veut faire son jardin doit bien sûr maintenant, de toute façon, sera obligé de le faire de façon naturelle. Alors Bertrand, vous nous dites d'ailleurs toujours que, par exemple, le meilleur moyen de désherber est de le faire à la main. Le meilleur désherbant pour vous étant le BTP. Autrement dit, prends ta binette. Alors Xavier Mathias, ancien maraîcher bio et formateur en permaculture, dit que de toute façon en culture bio, désherbage ne fait pas partie du vocabulaire car binage et sarclage suffisent pour agir sur les plantules et qu'il faut intervenir tôt, c'est-à-dire lorsqu'on doit s'agenouiller pour les voir, car après il est trop tard. Et il y a d'ailleurs il y a de très très bons outils, n'est-ce pas, pour ça. Par exemple, la houe maraîchère. C'est un outil que je ne connaissais pas, Bertrand.
Ouais. Alors, on va revenir à la binette. C'est en effet l'outil de base pour le binage et le sarclage. Hein. Alors, petit rappel, le binage, ça a pour fonction de casser la croûte de surface, d'aérer le sol et d'empêcher l'évaporation. Donc, on le pratique, par exemple, après quelques jours après la pluie, même s'il n'y a aucune mauvaise herbe. Hein. Il n'y a pas d'herbe mauvaise, c'est pour aérer le sol. Le sarclage, lui, a en plus une fonction de désherbage en même temps. Et puis, il y a effectivement la houe maraîchère, donc c'est un outil de désherbage. Hein. C'est aussi appelé pousse-pousse, binette à roue ou encore cultivateur à pousser. C'est un outil à main qui est léger, qui permet de désherber plus rapidement entre les rangs avec moins d'efforts, surtout pour les grandes surfaces. Hein. Il est utilisé depuis longtemps en maraîchage biologique. Alors son principe est simple, hein. Il y a une roue à l'avant pour porter le poids de l'outil, un guidon qui permet à l'utilisateur de travailler en gardant le dos droit, et un système de fixation pour différents outils, donc facilement interchangeables, des sarcloirs, des lames droites, des butoirs, des rayonneurs. Plein d'outils peuvent se monter là-dessus. Et son principal avantage est qu'il préserve le dos, car on travaille vers l'avant avec un dos droit. Donc on l'utilise avec des mouvements en avant et en arrière. Hein. On pousse en avant, on retire un peu, on repousse en avant, et on avance comme ça. Ça va très vite à désherber. Donc c'est un outil très léger qui ne tasse pas le sol, contrairement aux motoculteurs et aux tracteurs. Mmh. C'est un outil qui peut également être utilisé pour le désherbage des allées, des chemins, voilà, c'est les chemins gravillonnés, tout ça, c'est très bien.
Alors, on en trouve bien partout dans les magasins d'outils de jardinage.
Alors, c'est un outil qui était tombé un peu dans l'oubli, hein. C'est oui. Vrai qu'on n'en voyait plus. Hein. Dans le temps, il y en avait énormément, maintenant on n'en voit plus. Mais on commence à en retrouver un peu partout maintenant, sur Internet, dans les catalogues de graines, dans les magasins de jardinage, etc. C'est vraiment un outil très pratique, surtout pour les grands jardins. On peut également le trouver dans les brocantes, hein, ou sur le Bon Coin. On peut faire de pub, mais on en trouve à des prix très abordables. Donc on nettoie un petit peu, on remet en état, et puis voilà un objet ancien qui reprend du service. Hein. Moi, personnellement, j'utilise celui de mon grand-père. Hein. Et quand j'avais 10-11 ans, dans ses champs, on broutait des journées entières avec le pousse-pousse, et c'est très très bien.
Ah, d'accord. Alors, ce qui est formidable finalement, Bertrand, c'est qu'avec la disparition des produits phytosanitaires, on va peut-être revoir des vers de terre indispensables pour le jardin.
Ah oui, tout à fait. Donc effectivement, les vers de terre sont d'excellents auxiliaires du jardinier. Hein. Donc il y a plusieurs espèces qui œuvrent dans nos jardins. Alors il y a des petits vers de terre, hein, qui ont une action de surface, qui transforment toute la matière organique. Il y a les moyens qui vont aérer un peu plus profondément le sol en creusant des galeries et en mélangeant diverses matières organiques à la terre. Et puis il y a les gros vers de terre qui vont agir encore plus en profondeur. Ils récupèrent la matière organique de surface et puis vont l'enterrer profondément. Leurs galeries vont aérer le sol en profondeur, donc c'est très bien. Alors faut savoir qu'un vers de terre, c'est capable de consommer 30 fois son volume de terre par jour. Et dans un terrain naturel et bien équilibré, c'est près de 600 tonnes de terre par an qui sont ainsi digérées, transformées, tout en enrichissant le sol. De plus, grâce aux galeries que les vers de terre vont creuser, les racines des plantes vont grandir plus facilement et la terre sera beaucoup plus aérée. Et puis, il y a une chose qu'on oublie un peu souvent, c'est qu'on doit toujours chercher à avoir un jardin en équilibre. Et puis, les vers de terre vont contribuer à avoir ce jardin en équilibre, car ils sont aussi les proies des oiseaux, et qui sont alors une bonne source de protéines pour les oiseaux. Et ça leur est indispensable d'avoir des protéines animales.
Tout à fait. Alors, Bertrand, c'est aujourd'hui la Saint-Raymond. Le dicton dit, s'il neige à la Saint-Raymond, l'hiver est encore long. Bon, débrouillard, un temps gris, un ciel couvert, un peu de pluie, mais pas de neige en prévision pour ce lundi. On peut donc aller faire un tour au jardin. Alors, je crois que d'après le calendrier lunaire, c'est un jour racine. Explication, Bertrand, très vite.
Alors, je rappelle que le calendrier lunaire provient des expérimentations effectuées par Maria Thun sur plus de 50 ans en Allemagne. Il en ressort notamment que les légumes se déclinent en quatre grandes catégories, légumes feuilles, légumes fleurs, légumes fruits et légumes racines. Alors, chaque mois, la Lune va effectuer un tour de Terre. Et pendant ce tour de Terre, elle passe devant les constellations, les mêmes que celles du Zodiac. Hein. Donc, en plantant Et en semant à différentes périodes, Maria Thun s'est aperçue que tel ou tel légume poussait mieux ou bien plus mal, était moins ou plus sujet aux maladies, etc. Et alors, selon qu'il avait été semé devant telle constellation ou pas. Et de ces recherches tout à fait empiriques et de ces expérimentations, il en a découlé le calendrier lunaire. Donc aujourd'hui, c'est effectivement un jour racine. Donc c'est un jour favorable aux divers légumes racines. On pourrait donc semer sous abri, par exemple sous couche chaude, les premières carottes, les radis, les navets. Mais pas de précipitation, on a encore largement le temps.
Oui, tout à fait. Alors, avant de nous séparer, hein, Bertrand, on rappelle, puisque les fêtes sont terminées, quelles sont les meilleures façons de se débarrasser du sapin de Noël si on l'a pris sans racine, c'est-à-dire sans la possibilité de le replanter. Alors, on en a déjà parlé. Il existe aussi des sacs à sapin, hein, offerts gracieusement, on va dire, par les mairies.
Oui, tout à fait. Mais tout d'abord, il est interdit de les jeter dans la nature et de les mettre sur le trottoir. Hein. Donc, c'est vrai que les villes proposent de plus en plus de la collecte. Hein, il suffit de les ramener dans une benne, mettre dans le sac à sapin, tout ça. Il sera broyé ensuite par les employés municipaux. Il servira de paillage pour les parterres de la ville. Hein. Les déchetteries les récupèrent également dans la benne à déchets verts. Bien sûr, il faut enlever toutes les décorations. Certains magasins les récupèrent également, mais ils récupèrent que leur sapin avec le ticket de caisse. Hein. D'autres magasins, comme Truffaut, quand on ramène un sapin coupé, c'est l'assurance de planter un sapin en France. Et puis aussi, vous savez que les épines tombent toutes seules, hein, des sapins, et puis certains les récupèrent, les mettent dans des bocaux, et puis ils s'en servent pour faire, par exemple, les faire bouillir dans l'eau, puis pour prendre des bains de pieds. Elles auraient des vertus pour les pieds fatigués. Ou alors une poignée d'épines bouillies dans l'eau aura des vertus pour désinfecter la maison, qui en plus sentira bon. Donc on peut s'en servir aussi des épines comme anti-limace, hein, ou comme paillis au pied des rhodos, des azalées, des plantes qui ont besoin de terre de bouillère.
Eh bien voilà.
Voilà.
Eh bien Bertrand, merci, encore bonne année, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci Bertrand.
Oui, au revoir.
Région a été son premier ouvrage, Le boomerang et l'hirondelle a été son premier roman, l'histoire de femmes et d'hommes au grand cœur, leur joie, leur peine, leur combat et leurs espoirs, et ce au siècle dernier, comme décor l'Audomarois et puis bien sûr notre bassin minier avec ses terris et ses fosses. Au clair de la terre, les jours heureux, voici que paraît son deuxième roman. Avec moi aujourd'hui, Daniel De Waal. Bonjour Daniel.
Oui. Bonjour. Alors, bonjour Martine.
Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année. Je parlais à l'instant du pays minier avec ses terris. Vous, l'année, vous la commencez toujours avec votre région en toile de fond, puisque avec un certain nombre d'adeptes, vous escaladez depuis 4 ans le terri d'Aïcourt pour vous souhaiter la bonne année tout là-haut, en toute convivialité et chaleur humaine. 429 marches quand même, hein. Après avoir fait réveillon, c'est quand même pas mal. Et puis là-haut, bien sûr, champagne.
Voilà, bah c'est un petit clin d'œil aux Calaisiens, aux Dunkerquois, hein. Et en se disant, tiens, eux ont la mer pour aller faire un peu le fou le 1er janvier, bah nous avons nos terris. Alors depuis 4 ans, ouais, effectivement, de plus en plus de personnes nous accompagnent, quoi. C'est bien. Alors, en haut, il y a le café, une petite goutte de jus, café, un petit calva, ou une vodka. Un vieux mineur a ramené 4-5 brioches cette année. Un ancien mineur de 82 ans, Edouard, a ramené de la brioche à tout le monde là-haut. Là, bon, on était un peu plus de 250.
Hein. C'est bien vrai.
Ça augmente d'année en année.
Alors, Daniel De Waal, est-ce que justement, il ne faut pas savoir quelquefois prendre de la hauteur pour mieux voir les choses? Au clair de la terre, les jours heureux, c'est le titre de votre deuxième roman. Et ce titre évoque bien sûr déjà une certaine distance par rapport aux choses. Et puis, on imagine surtout la terre dans l'espace. Alors d'abord, dites-moi, vraiment, c'est un roman, c'est un roman réflexion, c'est un roman science-fiction ou c'est un triste constat?
J'ai un ami qui l'a lu en disant c'est un OLNI, comme il dit, un objet littéraire non identifié.
D'accord.
Parce que ça, il y a de la fiction, mais on parle de l'histoire du passé. Il y a de la science-fiction parce qu'on va au 21e, 22e siècle. Donc c'est un peu les éditions Baudelaire, donc classées dans la série fantasy, un petit peu science-fiction. Mais en fait, et puis c'est un constat politique, social, sur notre planète aujourd'hui, quoi, et puis ce que vivent les êtres humains.
D'accord. Alors, Daniel De Waal, je sais que vous êtes un féru d'astronomie, et on peut rappeler à nos auditeurs que dans ce domaine, le clair de terre et l'éclairement de la Lune ou d'un objet dans l'espace par la lumière soleil, la lumière solaire renvoyée par la Terre. Alors, pensez-vous que notre planète puisse encore, au sens figuré, bien sûr, refléter la lumière avec sa pollution, ses guerres, ses haines, car vous le dites vous-même, elle est en train de s'asphyxier?
Bah oui, c'est un petit peu le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Hein. Notre Terre, je crois qu'elle s'asphyxie à cause du boursicotage, hein, que notre monde est dirigé par la finance, quoi, et qui est en train de nous asphyxier. Et puis, les conséquences, c'est tout ce qui tourne autour du réchauffement climatique. Et puis aussi, à cause de ça, les migrations humaines, etc. Et dont certains pensent que c'est la faute de leurs voisins, des autres êtres humains, si tout va mal, quoi. D'où cette tendance un peu à la haine des autres qu'on voit se développer dans pas mal de nos pays, malheureusement, quoi.
Alors, dans le boomerang et l'hirondelle, vous commenciez avec le récit d'une éclipse totale, spectacle impressionnant, comme chacun sait, pendant lequel tout semble s'arrêter avant que la vie ne reprenne, spectacle céleste. Alors, peut-être plus beau que celui qui se passe sur Terre. Cette fois, vous restez sur Terre, mais avec l'espoir que tout peut encore changer. Très pessimiste, vous l'êtes, Daniel. Néanmoins, vous pensez que les peuples vont se ressaisir. Alors, n'est-ce pas un petit peu idéaliste? Vous n'avez pas peur que l'on vous prenne un petit peu pour un doux rêveur?
Voilà. Alors, en fait, le roman est sorti il y a un mois, là, maintenant. Hein, et puis, dans la présentation de plusieurs journaux, ils disent, alors, un peu avec un petit sourire, un roman prémonitoire, parce que je parle de la révolte des peuples contre la finance, etc. Ils disent, les gilets jaunes, qu'est-ce que c'est, si ce n'est un peu une forme de révolte de notre peuple contre l'accumulation de la richesse dans les mains de quelques-uns, etc. Alors on dit, on ne sait pas où on va aller, mais ces débuts de révolte en France, on voit que, vous voyez, ce matin j'entendais en Belgique, il y a pas mal de gilets jaunes, dans d'autres pays il y en a aussi. On essaye d'éviter d'en parler parce qu'on voudrait pas que cette mayonnaise-là prenne un peu trop. Hein. Elle pourrait être dangereuse pour nos privilégiés, quoi. Mais donc moi je suis optimiste en disant, je pense que les peuples finiront par l'emporter sur nos milliardaires, nos banquiers, et puis nos présidents qui sont trop souvent des marionnettes des banquiers et des milliardaires, quoi.
Alors,
j'en suis convaincu.
Alors, une dernière question, hein, Daniel De Waal. On a quand même l'impression que cet ouvrage est une forme d'exutoire.
Oui. J'allais dire, il y a certains jours, je suis très pessimiste sur ce que nos enfants, nos petits-enfants vont peut-être connaître sur cette planète. Et en fait, j'ai écrit ce roman un petit peu comme... un peu une thérapie personnelle pour me redonner le moral et puis continuer de se battre pour faire changer les choses, quoi. En disant, on ne peut pas laisser le monde tel qu'il est et laisser cet avenir-là à nos enfants, à nos petits-enfants, et donc il faut qu'on se batte pour changer les choses. Et puis il y a le roman est un petit peu une façon de se redonner du moral, en tout cas moi il m'a servi à ça, pour me redonner du moral les jours où on est un peu pessimiste en regardant notre terre actuelle, quoi. Mmh. Et ce qu'on fait, ce qu'on impose aux êtres humains.
Finalement, les pieds sur terre et met la tête dans les étoiles, deux expressions qui ne vous vont pas trop mal, Daniel.
Oui, tout à fait. Bah oui, parce que la vie quotidienne, elle est très difficile pour de plus en plus de nos concitoyens. Mmh. Mais en même temps, bah la tête dans les étoiles pour rêver d'autres choses et se dire qu'à un avenir meilleur, bah c'est possible.
Tout à fait. Au clair de la terre, les jours heureux, c'est signé Daniel De Waal et c'est paru aux éditions Baudelaire. Au clair de la terre, au clair de terre, les jours heureux. C'est ça, au clair de terre, les jours heureux.
Au clair de la terre, oui.
C'est signé Daniel De Waal, donc, et c'est paru aux éditions Baudelaire. Daniel De Waal, merci, et on vous souhaite encore une bonne année, faite peut-être de moins d'individualisme et beaucoup plus d'amitié des uns envers les autres, c'est-à-dire tout simplement avec un petit peu plus d'humanité, n'est-ce pas? Merci Daniel.
Oui, tout à fait, merci.
Merci Daniel.
Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Vas-y Lisette, on t'écoute.
Soleil, quand mon cœur est un soleil, je soleil, à la bonne heure je soleil. Au rayon des bonnes idées, je me crapahutais au soleil. Au soleil. J'ai conçu cette chanson comme un médicament, comme une envie d'ensoleiller la vie des gens. Une armistice en ce contexte détonnant. Pour la notice, mon petit doigt m'a dit comment. Un brin de simplicité, un soupçon d'humanité, un zeste de légèreté, rien de vraiment compliqué au soleil. Je soleil. Soleil. Quand mon cœur est un soleil, je soleil, à la bonne heure je soleil. Au rayon des jours fériés, j'aime me prélasser au soleil. Au soleil. Écoute, si toutes les âmes en peine un jour prenaient le temps de dire ces mots qu'on ne dit pas si souvent. Et si les âmes en panne d'amour donnaient le change, on comprendrait qu'aimer ce n'est pas si savant. Adieu inégalité, bye bye inhumanité, bonjour solidarité, bienvenue fraternité du soleil. Du soleil, avec moi les enfants, yeah. Soleil, quand mon cœur est un soleil, je soleil, à la bonne heure je soleil. Au rayon des larmes salées, j'aime te consoler, tu sais, oui. Au rayon des gens heureux, j'aime faire des envieux. Au soleil.
Eh bien, c'est avec ce rayon de soleil que nous apportait Barcella que nous terminons l'air du temps aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine, bien entendu. Et puis tout de suite, après la petite page de publicité de la musique durant toute l'heure avec Kaléidoscope. Rappelez-vous, eh oui, cela met le moral au beau fixe. À tout de suite.